Donc, on poursuit notre série. Le message aujourd'hui s'intitule « Jésus change tout ». On est on approche vers la fin du chapitre 1. Et donc, c'est comme un retour en arrière parce que David avait prêché sur le chapitre 2 et un petit peu du chapitre 3 la semaine passée, mais on fait un retour. Mais vous allez voir que tout est relié. Et ce matin, nous allons parler donc de ce qui se passe dans la vie d'un individu lorsqu'il entre dans une relation personnelle avec Jésus. Quand cette personne entre dans cette relation, eh bien, Jésus vient vivre en elle et puis sa vie prend une nouvelle couleur. Puis vous l'avez vécu si vous avez reçu Christ dans votre vie. Une nouvelle lumière vient jaillir à l'intérieur de toi. Et ta vie prend une nouvelle direction. Puis il y a des nouvelles habitudes. Tu commences à vivre différemment. Tu commences à penser différemment, à prendre des décisions différemment. Je me souviens d'une histoire que Cheryl, mon épouse, m'avait racontée concernant une bonne amie à elle. Qui s'appelle Sylvia. Quand Cheryl était une jeune femme, eh bien, elle admirait beaucoup Sylvia, une sœur dans le Seigneur qui était plus âgée qu'elle. Et Cheryl lui a demandé, « Est-ce que tu peux être mon coach? Est-ce que tu peux être ma conseillère de prière? » Et Sylvia a dit oui. Et Sylvia, elle a beaucoup aidé ma femme, Cheryl, ma femme qui est à Toronto aujourd'hui, pour des réunions, mais ça se passait, en fait, avant qu'on était mariés, l'histoire que je vous raconte. Donc, un jour, Sylvia est tombée très malade. Elle a eu un combat intense avec le cancer. Et oui, à la fin, le cancer a pris le dessus et Sylvia est décédée du cancer. Mais durant sa maladie, elle se battait, elle priait, elle continuait aussi à rencontrer ma femme et un jour, elle lui a dit ceci. « Je me bats pour ne pas mourir maintenant. Je sais que quand je vais arriver de l'autre côté, quand je vais décéder et arriver dans l'autre dimension, je sais que ça va être merveilleux. » Je sais que je vais être encore plus proche du Seigneur et je ne vais pas regretter ma vie sur la terre. Mais pendant que je suis encore ici, je sais que mes proches, je sais que mon mari, je sais que mes enfants ont besoin de moi. Et même si j'ai la paix de partir quand Dieu veut, je vais me battre de toutes mes forces pour rester, pour ne pas partir tout de suite. Et elle s'est battue, puis elle est restée pendant un bout de temps, puis après, le Seigneur l'a prise. Alors, ma femme et moi, on est restés marqués par ce témoignage. Parce que, c'est ça, Sylvia vivait comme une chrétienne, et ça nous enseignait. Sylvia vivait dans la souffrance, mais pourtant, et elle avait des choix difficiles à faire, mais c'était des choix pleins de lumière. C'est comme choisir la meilleure entre deux choses bonnes. Et ça, c'est parce que Christ était avec elle dans sa vie. Christ était avec elle aussi dans sa décision. Et puis le défi qui était difficile, mais le défi, c'était, comme j'ai dit, choisir entre deux choses bonnes, laquelle est la meilleure. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un peu avant, dans Philippiens, c'est ce que Paul dit aux Philippiens. Il dit, « Moi, ma prière pour vous, c'est que l'amour de Christ en vous grandisse puis que vous appreniez, dans vos décisions de vie, à décider c'est quoi le meilleur. » Comme c'est merveilleux de pouvoir vivre comme ça. Parce que la vie est difficile. La vie sur terre est pleine de souffrances, pleine de difficultés. Puis, il faut qu'on prenne conscience que nous, en tant que chrétiens, on a le privilège de vivre avec Jésus, de ne plus vivre dans l'angoisse que beaucoup de gens autour de nous c'est tout ce qu'il voit. Le pessimisme, le désespoir. On en arrive à se sentir obligé de choisir le moindre mal parmi différentes options négatives. Et je pense que pour beaucoup de personnes, par exemple, qui vont choisir l'aide médicale à mourir, mais pour eux, c'est comme, bien, c'est le moindre mal. C'est dans leur tête, à eux, c'est mes options devant moi sont toutes sombres, sont toutes négatives. Je vais prendre celle qui est la moins pire, comme on dit. Et nous, les chrétiens, on est devant des choix lumineux, des choix positifs, malgré le côté sombre qui est là, malgré la souffrance qui est là. Pourquoi? Parce que Christ marche avec nous, puis Christ est en nous. Et dans le texte de ce matin, dans Philippiens, on voit l'apôtre Paul qui témoigne de cette relation avec Christ, lumineuse, qui amène l'espoir. Et dans ce texte, il va se donner un exemple pour les Philippiens. Il leur montre comment ils réfléchissent, comment ils pensent à ces choix, qui sont des choix difficiles. Et comme j'ai dit, c'est tous des choix qui vont inclure des difficultés. Et quelqu'un pourrait me dire, ouais, Paul, il se met en exemple, mais c'est un Jesus freak. Nous, on est des gens ordinaires, mais Paul, c'est un apôtre. Il est obligé de vivre dans une autre dimension que moi. Ben non. Paul, c'est un apôtre, alors sa fonction, c'est d'aider les Philippiens, puis de t'aider, de m'aider, de nous aider à comprendre c'est quoi la vie en Jésus. Mais la raison pour laquelle il met sa vie en exemple, c'est parce qu'il se dit, ce que moi j'ai appris à vivre, tous les chrétiens doivent apprendre à le vivre. Chacun à leur rythme, mais c'est les mêmes principes pour tout le monde. Je veux, dit Paul, que vous appreniez à vivre avec Christ en vous, comme je suis en train d'apprendre moi-même. Alors, on va lire comment Paul fait face à ses choix. Il est en prison. On a vu que c'est pas drôle d'être en prison dans l'Empire romain. Enchaîné par terre. Enchaîné peut-être à l'autre gars à côté. Et il n'y a pas de programme de réhabilitation dans les prisons de Rome. Et c'est le cas dans beaucoup de prisons aujourd'hui dans le monde. Au Canada, il y a des programmes, il y a de la nourriture dans les prisons, mais dans l'Empire romain, c'est tes amis qui t'amènent à manger, qui t'amènent des couvertures, etc., sinon tu n'en as pas. Et il n'y avait pas de loi contre la torture. Et les procès pouvaient mal se terminer pour toi. Paul nous surprend dans ses mots par son espérance. On va lire un extrait maintenant. Mais d'abord, prions. Encore une fois. Seigneur, parle-moi. Donne-moi une parole au moins pour mettre en pratique quelque chose cette semaine et même aujourd'hui. Au nom de Christ. Amen. Alors, voici le texte. Paul, en fait, il venait de parler du fait que, autre chose étrange, lui est en prison et d'autres prédicateurs prêchent en liberté, mais certains d'entre eux avec une perspective de compétition avec Paul. Et même, et c'est horrible, mais c'est comme, on va le dénigrer. En prêchant Christ, on va aussi dénigrer Paul pour qu'il reste en prison. Et j'imagine qu'il se disait, puis s'il se fait exécuter, ben bon débarras, ça va faire plus de place pour nous qui prêchons. Terrible, hein? terrible. Mais Paul dit, je suis quand même content parce que Jésus-Christ est proclamé. Et il poursuit en disant ceci. C'est là que je vais lire le texte. Je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir, d'une part, de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et que je demeurerai avec vous tous. Pour votre progrès, et pour votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Amen. Alors, je résume comme le message avec cette phrase ici. C'est que pour toi, qui est chrétien, qui est appelé à devenir chrétienne. Mais comme pour toi, comme pour toute personne chrétienne, ta nouvelle relation personnelle avec Jésus va redéfinir tous les aspects de ta manière de vivre. Hein? Ta nouvelle relation personnelle avec Jésus redéfinit tous les aspects de ta manière de vivre. Puis ça, c'est ce que Paul met en valeur ici par ce qu'il explique concernant sa vie aux Philippiens. Les Philippiens qui sont des nouveaux chrétiens, qui constituent une église, une petite église, joyeuse mais persécutée. Bon, lui, il est en prison probablement à Éphèse, qui est carrément dans un autre pays, mais il écrit cette lettre à ses chrétiens qui persévère dans cet autre pays qu'il a dû laisser. Alors, on va faire un petit inventaire maintenant des dimensions de la vie de Paul qui ont changé et qu'il met devant nos yeux, parce que c'est pour nous aussi. J'en ai relevé quatre. Premièrement, on apprend en tant que chrétien à avoir le contentement dans toute situation. On apprend à trouver le contentement dans toutes nos situations. Ça, c'est la marque de la chrétienne. C'est la marque du chrétien. C'est quelqu'un qui se dit, voilà, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour trouver le contentement dans ce qui se passe de nouveau dans ma vie? Paul est en prison et ce qui est frappant, il ne se plaint pas. Il n'est pas en train de se plaindre, il n'est pas en train de comme quémander pour de la pitié. Dans les contretemps qu'il vit, il observe des situations où il peut remercier Dieu, des situations surtout où il peut témoigner de sa foi, témoigner de son espérance, être l'instrument de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Même dans ceux qui le font souffrir, il voit des personnes pour qui être une lumière. Quand il fait face à son procès, il dit, priez pour moi que je sois un témoin fidèle devant les soldats qui me rudoient, devant les juges qui pouvait être juste ou injuste, etc. Il voit des personnes en eux pour qui lui peut être une lumière, la lumière de Christ. Il demeure heureux que partout où il est, Christ est en lui. Christ est tout proche de lui. Et quand on pense au monde d'aujourd'hui, ben, on voit que partout, et c'est les organisations missionnaires qui nous en parlent, parce qu'ils nous demandent de prier, partout, il y a des vrais chrétiens, ceux qui vivent avec Jésus en eux, même dans les pays les plus en difficulté, même dans les pays où il y a le plus de persécution de la foi chrétienne, il y a des vrais chrétiens qui sont là. Et les vrais chrétiens, eux, sont bien plus souvent ceux qui deviennent réfugiés, ceux qui souffrent, ceux qui doivent abandonner parfois leur possession, leurs privilèges, bien plus que ceux qui, eux, vont causer les guerres, ceux qui sont les conquérants, ceux qui font souffrir les autres. On voit que les vrais chrétiens, ils sont parmi ceux qui se mettent avec ceux qui souffrent. Ils se mettent avec ceux qui aident les autres. Et souvent, ce sont aussi ceux qui doivent fuir. Souvent, les vrais chrétiens sont chassés, doivent aller vivre ailleurs, dans les marges. Et ça, c'est difficile. Et je pense que dans cette salle, il y a des gens qui sont des réfugiés. Bien, je le sais. Et quelle douleur que de quitter des propriétés qui sont à nous. Et on ne sait pas si on va pouvoir les récupérer, on va pouvoir les retrouver. Mais ils viennent dans leurs nouveaux endroits. Et ils transforment ces endroits en endroits de paix pour les autres. Il y a toujours eu des vrais chrétiens. C'est vrai qu'il y a toujours eu des faux chrétiens ou des chrétiens qui comprenaient mal qu'est-ce que c'est l'Évangile. Et jusqu'à un certain point, on est tous en train d'apprendre c'est quoi vraiment la vie avec Christ. Les faux chrétiens ont colonisé les autres, ils ont dominé, ils ont pris les possessions des autres et ils ont donné une fausse image à la vraie vie avec Jésus. Mais comme Paul, les vrais chrétiens sont là et il y en a de plus en plus, je crois, dans le monde d'aujourd'hui. Ils savaient qu'ils n'avaient pas besoin de prendre la terre de quelqu'un d'autre pour vivre leur nouvelle identité spirituelle, qui est d'être un ambassadeur de leur Papa Céleste, là où ils sont. Alors là où tu es, peut-être que tu es une personne déplacée, volontairement ou involontairement, mais là où tu es, puis peut-être tu te dis, pourquoi est-ce que je suis venu au Canada? C'était mieux pour moi au Brésil, ou c'était mieux pour moi au Congo. Mais avant de prendre ta décision, sache que tu peux être ambassadeur de Christ là où tu es. Et à l'Oasis, on est prêt à t'aider à découvrir ton appel. Donc, première chose qui change le chrétien, la personne qui vit dans cette relation personnelle avec Christ, apprend à trouver le contentement là où il est. Mais il y a un deuxième point qu'on voit chez Paul et qui est important pour nous aussi, c'est que tu apprends à ne plus avoir peur de la mort. Bien, je vais le dire autrement. Tu apprends à ne plus être conduit dans tes décisions par la peur de la mort. Souvent, j'ai eu la fausse impression que je n'avais plus peur de la mort, que j'étais rendu comme les meilleurs prophètes et les meilleurs disciples de Jésus à ne plus avoir peur de la mort. Mais chaque fois qu'un risque, un danger vient devant moi, j'ai peur à nouveau. Alors, je pense que ça veut dire que je suis humain. Je suis humain, puis je suis un chrétien comme les autres. C'est normal. Dieu a créé l'être humain pour vivre. Il ne nous a pas créés pour mourir. Bien que nous allons tous mourir, à moins que le Seigneur revienne avant ma mort, mais nous avons été créés pour vivre. Dieu a mis en nous un instinct, un amour pour la vie qui est comme qui nous connecte avec l'éternité. Et sûrement que l'apôtre Paul, lui aussi, avait peur de la mort. En fait, même quand on voit la vie du Sauveur, Jésus, le Fils de Dieu, quand il a prié devant sa mort imminente, « Seigneur, éloigne de moi cette coupe. » Oui, oui, c'était l'image de la coupe de poison. Il disait, « Moi, la mort qui est devant moi, parce qu'il la voyait venir, d'ailleurs, il a marché vers cette mort, qui n'était pas un suicide, mais qui était un sacrifice pour toi et pour moi. » Mais ça goûtait le poison, ça goûtait le poison. Il ne voulait pas mourir. Il en avait peur. Mais Paul aussi, comme Jésus, avait cette peur de la mort. Mais nous voyons que Paul, dans sa relation personnelle avec Jésus, sa manière de penser à sa mort devant lui change, commence à être transformé. La nouvelle réalité de l'éternité, cette vie abondante, oui, qui commence ici, mais qui continue après la mort, puis continue encore plus intensément, ça devient comme plus concret dans la tête de Paul, puis dans sa manière de réfléchir à ses décisions. Et Paul, j'imagine qu'il méditait là-dessus, parce que comme humain, on peut retomber dans cette pensée, bien, il faut éviter la mort à tout prix. Mais Paul méditait sur la nouvelle réalité qui vit en lui, et peu à peu, sa mentalité va changer. Et on le voit ici, et c'est au point où il lance un slogan. Il lance un slogan qui est très connu, puis qui mérite qu'on se penche là-dessus, parce que c'est comme une des paroles vraiment célèbres de la Bible. Et là, je l'ai mis dans l'ancienne traduction Louis II, que plusieurs ont appris par cœur. « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Ça, c'est dans le texte qu'on a lu, là. Paul dit ça aux Philippiens, au verset 21. « Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Alors, sûrement, c'est quelque chose qu'il répétait dans son cœur, il mémorisait, il méditait là-dessus. Et est-ce qu'il y en a qui connaissaient ce verset avant ce matin? Oui, il y a plusieurs personnes. Bon, on va le répéter ensemble maintenant à voix haute. OK? Donc, je vais le lire, puis après ça, je vais le relire, puis vous allez le dire avec moi. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Philippiens 1, 21, maintenant tous ensemble. Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Philippiens 1, 21. Wow! C'est un slogan pas mal fort. Alors, il y a des choses qui sont fausses qu'il ne faut pas croire par rapport à ça. Ça ne veut pas dire Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Que j'ai hâte que mon âme spirituelle se détache de mon corps physique qui est pas important et que j'aille vivre dans le ciel, dans une dimension plus libre et plus agréable. Ça, c'est la philosophie grecque, ou tout au moins celle de Platon. La Bible, c'est pas ça que ça dit. Comme Christ est ma vie et la mort m'est un gain, ce n'est pas un désir de fuite. Parce que, comme j'ai dit, la nouvelle vie en Christ a déjà commencé. Si tu as reçu Christ dans ta vie, tu vis déjà cette joie d'avoir Dieu en toi. Et c'est incarné dans ce monde-ci, dans ton corps actuel, avec toutes ses difficultés. Tu le vis parce que Dieu aime ton corps et Dieu aime le monde physique. Dieu veut sauver le monde physique. Et même ton corps physique, il va le sauver en le transformant. Donc, quand Paul dit « Christ est ma vie », il parle déjà de la vie maintenant, de sa vie en prison. « Christ est ma vie ». Christ est la vie, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Peut-être que tu ne le ressens pas du tout. Peut-être que tu es jeune et tu dis, moi, je n'ai vraiment pas hâte à mourir. Moi, j'ai hâte à vivre toutes les joies de ce que la vie peut m'offrir. Et ça, c'est normal aussi. Mais commence à mémoriser. Christ est ma vie et la mort m'est un gain parce que ça va amener une nouvelle qualité à ta vie ici-bas, où tu vas te donner plus librement, comme Paul le fait ici. Paul dit aussi, la mort m'est un gain. Et ce que Paul veut dire par là, c'est que après ta mort, bien, ta relation avec Christ, qui est la chose la plus joyeuse, la plus lumineuse dans ton existence, déjà maintenant, mais ça va être encore plus intense et proche après la mort. Il y a comme trois étapes, hein? Il y a la vie ici-bas avec Christ. Après ça, il y a la vie avec Christ après la mort, où Paul dit « je vais être encore plus proche de lui ». Il y aura une proximité encore plus grande et j'imagine une intimité encore plus profonde après la mort. Mais ça, c'est avant la résurrection de ton corps qui va avoir lieu après le jour de Christ ou au moment du jour de Christ où tu vas être réuni à ton corps, un corps renouvelé, un corps éternel, et ça sera comme une troisième sorte d'existence, mais celle-là aussi dans cette intimité avec Christ encore plus intense. Ça mérite qu'on y reflète. Dans son livre, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du livre « Une vie, une destinée » de Rick Warren. C'était un livre qui a marqué beaucoup de personnes dans les années 90, mais lui, ce pasteur-là, encourageait tous les chrétiens à garder cette perspective sur notre vie sur terre. Elle est courte. Notre vie sur terre est courte. Max, 100 ans. Je dis ça parce que mon père, il a 96 ans. Et malheureusement, mon papa, il est tombé. Il est tombé avant-hier. Et s'est cassé une hanche. Et il va se faire opérer demain. Et c'est très risqué quand on a cet âge-là. Mais mon père a toujours pris soin de sa santé et il approche des 100 ans. Je vais aller le voir cet après-midi et vous pouvez prier pour lui et pour moi. Mais ce que je veux dire, notre vie sur terre, ça ne dépasse pas les 100 ans. Et par contre, la vie après la mort, c'est beaucoup plus long. C'est éternel, hein? Et Rick Warren, il dit, comparez votre vie à un iceberg. Un iceberg, c'est comme, vous savez ce que c'est un iceberg? Ça flotte sur l'océan. Ça se détache de la banquise au pôle Nord, puis ça s'en vient. On peut les voir, j'en ai vu un à Terre-Neuve. Et j'ai même fait le tour en kayak d'un iceberg, un petit iceberg. Mais on a dit, tiens-toi loin de l'iceberg, parce qu'il y a 8/9 de la masse de l'iceberg qui est en dessous de l'eau. Et puis, s'il y a un mouvement, s'il y a un morceau qui se détache, ça peut basculer. Puis toi, ton kayak, il va revoler dans les airs ou il va être pogné en dessous de l'iceberg et tu peux mourir, noyé. Mais bon, là, ce que j'essaie de dire, c'est ta vie, là, ta vie sur Terre, c'est juste une partie visible de l'iceberg pour toi, mais le gros de l'iceberg, l'essentiel de l'iceberg, qui est la vie après la mort, dans l'image, elle est en dessous de l'eau, elle est invisible. Et tu dois te préparer. Tu dois te préparer pour cette vie-là. Et plus tu vis dans la bonne perspective, mieux tu vas vivre cette courte partie de maximum 100 ans qui est la vie avec Christ sur terre. Donc, deux dimensions qu'on voit changer chez Paul. Il apprend à trouver le contentement. Deuxièmement, il apprend à ne plus se laisser conduire par la peur de la mort. Troisièmement, il apprend à choisir en fonction du bien des autres. Il apprend à choisir en fonction du bien des autres. Parce qu'il se dit déjà une chose surprenante, la mort est un gain. Un peu comme Sylvia dans l'histoire que je vous ai racontée. Elle disait, je sais que quand je vais être de l'autre côté, waouh, je vais pas regretter d'être parti. Puis ça va être le cas pour toi aussi. Tu vas être tellement heureux et tu vas savoir que le Seigneur prend en charge les choses que toi, tu sens que tu n'as pas pu finir. Paul, quand il parle de partir et être avec le Seigneur dans ce texte, il utilise un verbe qui signifie lever l'ancre. Puis ça, c'est une image d'un bateau que tu es comme peut-être amarré au port et tu détaches les cordes et là, tu t'en vas là où tu veux aller. C'est une image très positive pour quelque chose qui signifie la mort physique et le passage à l'autre dimension, à l'autre période. Paul a hâte, et il se dit, pour moi-même, mourir serait le moins souffrant. Mais le Seigneur m'a donné cette conviction que vous n'êtes pas prêts encore. Il m'a envoyé vers vous pour vous amener à Christ, pour vous éduquer dans la foi chrétienne, pour vous montrer le modèle de quelqu'un qui marche avec Christ, pas lui-même. Mais je vois que, waouh, il y a encore besoin. Vous avez encore besoin d'être encouragé. On va voir plus tard, il leur dit, ne vous laissez pas intimider par ceux qui vous disent, lâchez donc ça, cette secte dans laquelle vous êtes entrés, puis revenez vers nous, vers votre ancienne vie. Il dit, ne vous laissez pas intimider, mais restez ferme. Et Paul sent qu'il a besoin de continuer à travailler avec eux. Et cela va demander plus de souffrance pour lui, mais il se dit, parce que c'est le bien des autres, j'ai cette conviction que je vais m'en sortir et je vais revenir vous voir, vous les Philippiens, et ça va fortifier votre foi, et mon enseignement va fortifier votre foi. Donc, ça aussi, c'est la marque d'une chrétienne, d'un chrétien. On est prêt à souffrir si cela signifie continuer l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Maintenant, l'Évangile, ce n'est pas une fuite du monde ici-bas, non, j'ai dit ça, mais aussi une fausse chose qui a été mal comprise parfois. La foi chrétienne n'est pas une glorification de la souffrance. Hein? On a déjà vu des moines dans le Moyen Âge et autres, et même, ça existe encore aujourd'hui, des chrétiens qui s'auto-flagellent, qui disent, si je me fais souffrir physiquement, ça va me donner des points méritoires pour mon salut, pour ma félicité éternelle. C'est une fausse compréhension. Ce que l'Évangile nous dit, ce que Paul nous dit aussi dans ce texte, c'est que n'aie pas peur. Si Dieu t'appelle à le servir auprès des autres, vas-y. Et si ça implique des souffrances et que tu les acceptes, eh bien, c'est ça qui est bien. Mais ce n'est pas la souffrance comme telle qui est un absolu. C'est juste, Dieu va nous donner le courage, va nous apprendre à faire face à la souffrance et il va être là avec nous. Bon, j'en arrive à mon dernier point. C'est que tu vas apprendre aussi, dans toute situation, la priorité peut-être la plus importante, d'être un témoin fidèle pour Christ. Et ça, c'est ce que Paul nous dit et par rapport à son procès. C'est assez frappant. Je suis ici, j'attends mon procès pour proclamer l'Évangile. Il faut le faire quand même. Et peut-être qu'un jour, tu vas te retrouver dans un lit d'hôpital et tu vas te dire, mais je suis ici, mais c'est pour être témoin de Christ. Peut-être que tu vas te retrouver un jour dans une situation de travail toxique. Et avant que Dieu te sorte de là, peut-être que tu vas comprendre, j'ai besoin de témoigner pour Christ dans cette situation. Dans toute situation, Jésus m'appelle à être un témoin fidèle. Ça ne veut pas dire que Dieu veut que tu y restes éternellement. Mais ça veut dire que partout où tu es un témoin de Christ. Et c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre. On a tous vécu des situations où on s'est dit, ah ben là, c'est trop pour moi. Je vais m'en sortir par la méthode humaine. Je vais agir comme un non-chrétien et cacher le fait que je suis chrétien pour pouvoir m'en sortir. Et moi, quand ça m'arrive, je le regrette après. Et je demande à Dieu, pardonne-moi, apprends-moi à le faire comme Jésus l'aurait fait. Au fond, c'est mon niveau de reconnaissance pour mon salut qui est défectueux dans des cas comme ça. Plus on est reconnaissant, plus on va être fier, on va être prêt à parler de notre Seigneur, à refléter notre reconnaissance envers lui dans toute situation. Et s'il y a un risque d'opposition, on ne se laisse pas diriger par la peur. Jésus va nous guider. Il le promet.